Audiolib présente Martin Eden de Jack London. Traduit par Francis Kerlin. Lu par Denis Podalydès. Chapitre 1er. Le Kidam ouvrit la porte avec une clé et entra, suivi d'un jeune gaillard qui retira sa casquette avec gaucherie. Celui-ci portait des vêtements grossiers, qui sentaient la mer, et le spacieux vestibule dans lequel il se trouvait n'était visiblement pas son élément. Ne sachant que faire de sa casquette, il allait la fourrer dans la poche de son paletot quand l'autre la lui prit. Ce fut un geste simple et naturel que le jeune empoté apprécia. « Il comprend, se dit-il, il ne me laissera pas tomber. » Il marchait sur les talons de l'autre en roulant des épaules et en écartant inconsciemment les jambes, comme si le plancher, immobile, se fût soulevé et abaissé au gré des mouvements de la mer. Les vastes pièces semblaient trop étroites pour ses grandes enjambées, et il craignait que ses larges épaules ne heurtassent les chambranles ou n'allassent faucher le bric-à-brac des consoles. Il louvoyait avec méfiance entre les divers objets et voyait se dresser des périls qui n'existaient que dans son esprit. Là où une demi-douzaine d'hommes eussent pu passer de front, entre un piano à queue et une table centrale jonchée de livres empilés, il se hasarda plein de terreur. Ses bras ballants pendaient lourdement à ses côtés. Il ne savait qu'en faire, et lorsque, dans un instant d'épouvante, l'un d'eux faillit effleurer les livres sur la table, il fit un écart comme un cheval effarouché, évitant de justesse le tabouret du piano. En observant le pas tranquille de l'autre devant lui, il se rendit compte pour la première fois qu'il avait une façon de marcher différente de celle des autres hommes. Il eut soudain honte de sa démarche de rusto. De minuscules gouttes de sueur perlèrent sur son front et il s'arrêta pour éponger son visage bronzé avec son mouchoir. « Attendez, Arthur, mon gars !» dit-il d'un ton badin pour essayer de masquer son angoisse. « C'est trop à la fois pour votre serviteur. Laissez-moi le temps de m'y faire. Vous savez que je voulais pas venir et j'ai idée que votre famille est pas impatiente de me voir. »«
Tout ira bien, » répondit Arthur, rassurant. « Nous sommes des gens simples. Tiens, il y a une lettre pour moi. »
Il revint vers la table, déchira l'enveloppe et se mit à lire, donnant à l'étranger le temps de se ressaisir. Et l'étranger lui en sucrait. L'autre lui offrait sa sympathie et sa bienveillance, et, sous son apparent désarroi, cette chaleur humaine produisait son effet. Il s'essuya le front et regarda autour de lui, le visage recomposé mais avec dans les yeux cette expression qu'on voit chez les bêtes sauvages lorsqu'elles redoutent le piège. Égaré dans l'inconnu, il appréhendait ce qui pouvait arriver, ignorait ce qu'il devait faire et, conscient de la gaucherie de sa démarche et de son allure, craignait que tous les attributs de sa personne ne fussent affectés de la même tare. Il était extrêmement sensible, terriblement mal à l'aise, et le regard amusé que l'autre lui lança secrètement par-dessus la lettre le blessa comme un coup de poignard. Mais il n'en laissa rien paraître, car, parmi les choses qu'il avait apprises, il y avait la discipline, et aussi parce que ce coup de poignard frappait son orgueil. Tout en se maudissant d'être venu, il décida de tenir bon, quoi qu'il arrivât. Ses traits se durcirent et une lueur farouche brilla dans ses yeux. Il observa les lieux plus librement, d'un regard perçant qui enregistrait les moindres détails du joli intérieur. Ses yeux étaient grands ouverts. Rien n'échappait à leur champ de vision et, tandis qu'ils s'imprégnaient de la beauté de l'endroit, leur lueur farouche s'estompa pour faire place à un plus doux reflet. Il était sensible à la beauté, et ici, la beauté ne manquait pas. Une peinture à l'huile capta son attention. De grands brisants se fracassaient contre un rocher saillant. Des nuages bas et noirs couvraient un ciel d'orage crépusculaire, et au-delà de la ligne d'écume, on apercevait une goélette qui serrait le vent et gîtait